France Inter.
Bonjour à tous. À la une de ce 13h, les joueurs du PSG attendus à Roissy cet après-midi avant une parade prévue à 17h sur les Champs-Élysées. Vers 19h, réception à l'Élysée. Et puis la célébration des héros se terminera au Parc des Princes dans une soirée mouvementée, concert, spectacle pyrotechnique au Parc des Princes. Nous rejoindrons nos envoyés spéciaux à Munich comme à Paris. Les Parisiens ont donc humilié les Milanais. 5-0. On n'avait jamais vu une telle différence de but en finale d'une Coupe européenne. Réaction sportive à suivre. Et puis nous dresserons aussi le bilan provisoire des violences durant les célébrations de la nuit dernière. Plus de 560 interpellations dans toute la France. Un mort à Paris, un autre à Dax. Et dans la Manche, un policier blessé par un pétard a été plongé dans un coma artificiel. L'actualité à l'étranger avec la piste terroriste selon Moscou après l'effondrement de 2 ponts dans des régions proches de l'Ukraine. Il y aura les bonnes ondes de Sandrine Houdin sur cette guinguette itinérante. On vous en a parlé hier, premier épisode. Second épisode sur cette guinguette qui va en zone rurale redonner un peu de lien social.
Moi-même, j'ai rencontré mon professeur d'histoire que j'avais dans les années 80 et qui habite ici à Mandres. Et ça, c'est top, ça n'a pas de prix.
Et puis le temps de ce dimanche, 10 départements du centre-est de la France sont en vigilance pour les risques d'orages à partir de 16h. Céline Dacosta.
Oui, des orages qui vont se multiplier et se renforcer de l'Auvergne vers le nord-est.
Et vos prévisions complètes dans une vingtaine de minutes. Des étoiles plein les yeux et une autre brodée désormais sur le nouveau maillot du club. Il se vend ce matin, ce maillot, 130€ dans la boutique du Parc des Princes. Alors à 17h, en principe, cet après-midi, les Champs-Élysées à Paris verront défiler la parade des joueurs du PSG, vainqueur de la Ligue des Champions. Et de belle manière, on va y revenir. L'avenue parisienne est d'ores et déjà bouclée, divisée en 3 blocs distincts pour prévenir tout débordement cet après-midi. Les accès commenceront à s'ouvrir seulement à partir de 14h30. Nombreuses stations de métro aux alentours sont fermées. Simon Le Baron, vous êtes sur les Champs-Élysées, bonjour.
Bonjour.
Il y a déjà des supporters qui attendent de pouvoir se rapprocher de la parade vers 17h.
Comme cet homme qui dort sur un banc, maillot du PSG sur le dos, écharpe du PSG sur les yeux, drapeau du PSG en guise de couverture, c'est le frère d'Anthony.
Ah bah le frangin, il se repose un petit peu, hein. C'est normal, il faut bien reprendre des forces. Il ronfle pour l'instant, donc tout va bien. Tant qu'il respire, on est bon.
Ils sont arrivés de Metz au milieu de la nuit.
On est supporters du PSG de père en fils. C'est un moment unique.
Jean-Claude, lui aussi, a un peu de mal à redescendre.
Faudrait que vous me pinciez pour me dire que c'est vrai, parce que moi, j'y crois toujours pas. Je suis vraiment heureux.
Sur l'avenue des agents, nettoie les stigmates de cette nuit de fête et de débordement racontés par Tom, Jérémy, Emma et Cassandra.
Nous, on est rentrés un peu plus tôt que les autres parce qu'on a vu que ça dégénérait un peu par ici.
On a regardé le match dans les bars, on a fêté avec tout le monde, on a vu la victoire et après on est parti.
Il n'y avait plus de code de la route à Paris. Ça roulait de partout, on voyait des scooters, ils étaient 3, 4 dessus, ça klaxonnait de partout. Mais franchement, tous les endroits où on a été, c'était plus de la célébration que de la casse. Ouais.
Et au milieu de tout cela, quelques touristes un peu perdus, comme Agnès, qui ne verra pas l'Arc de Triomphe.
Oui, bah oui, l'Arc c'est archi mort, on a fait toutes les rues autour, il n'y a pas moyen d'y aller. Moi, je viens des Ardennes, donc je suis venue pour des prunes, quoi.
Et le foot?
Ah, j'aime pas ça.
Forcément, elle est un peu seule aujourd'hui.
Ah, mais je me rappellerai, mon séjour à Paris, je viens plus, hein.
Voilà, ce reportage de Simon Le Baron sur les Champs-Élysées. On reviendra tout à l'heure sur les échauffourées de la nuit, accidents et autres interpellations. Le bilan provisoire est de 2 morts, des dizaines de blessés dans toute la France et près de 560 arrestations. On va d'abord à Munich prendre des nouvelles des héros. Munich, où vous êtes, Xavier Monferrand? La nuit a sûrement été courte aussi pour vous. Bonjour.
Je vous le confirme, bonjour. Bonjour
hier soir, les joueurs ont célébré leur victoire en famille.
Exactement. La soirée a été plutôt sage, en réalité très festive au stade, parce que les joueurs ont mis beaucoup de temps à sortir de la pelouse. Ils en ont profité au maximum, également dans le vestiaire, dans les coulisses du stade. On a vu vraiment le staff aussi fêter ça dignement, quasiment jusqu'à 2h du matin. Ils étaient encore au stade. Une image qui marquait, c'est Luis Campos, le directeur sportif, qui brandissait la coupe en la secouant devant le bus où tous les joueurs étaient et qui étaient secoués tout autant. Donc soirée festive et plus calme du côté de l'hôtel quand ils sont rentrés en famille avec tous leurs proches, un dîner et puis un peu de dodo pour être en forme aujourd'hui.
Voilà, être en forme pour cette parade des joueurs qui est prévue sur les Champs-Élysées à Paris à partir de 17h.
Voilà, c'est ça. En fait, on les attend ici à l'aéroport de Munich. Ils devraient être en route bientôt pour l'aéroport avec un décollage en début d'après-midi, une arrivée vers 16h à Paris. Ça peut bouger un peu parce qu'il y a des orages du côté de Francfort, donc ça peut compliquer un peu le retour. Ça a déjà retardé des vols ici à Munich. Et puis, on les attend effectivement sur les Champs-Élysées pour remonter la partie haute, puis la réception à l'Élysée vers 19h et 20h30, 21h au Parc des Princes. Tout ça, évidemment, théorique en termes d'horaire.
Merci Xavier Monferrand en direct de l'aéroport de Munich. Et 1 et 2 et 5-0, c'était donc hier soir un match parfait pour les Parisiens. Match à sens unique, jamais les Milanais n'ont pu inquiéter le gardien de but du PSG. Et notre consultant Bichente Lizarazu ne comprend pas bien une telle déconfiture milanaise.
Ils n'ont pas existé l'Inter. Ils n'ont pas existé une seule minute dans ce match. Je comprends pas. Je vous disais avant le match que l'expérience de ces joueurs de l'Inter, le fait d'avoir joué une finale déjà, de l'avoir perdu, t'es animé par quelque chose de fort. Mais eux, je les ai sentis asphyxiés. Cette équipe, en fait, que j'ai dit expérimentée, elle faisait âgée. Et Paris, enfin, eux, ils ont fait jeune et en même temps insouciant dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'ils ont joué leur football, ils n'ont pas du tout déjoué, ils ont fait probablement le meilleur match de la saison en Ligue des Champions. C'est la perfection ce qu'ils ont fait. Ouais.
11 millions et demi de téléspectateurs ont regardé hier soir la victoire du PSG, 8 millions 7 devant M6, 2 millions 8 sur Canal+. Et parmi eux, Michel Denisot, ex-Canal+, et ex-président du PSG de 1991 à 1998.
Une joie immense aussi, c'est le résultat d'une longue histoire du club qui a été créée en 1970, qui a connu des hauts, des bas, des beaux moments, des aléas comme tous les clubs, et qui entre enfin dans la cour des très grands, c'est-à-dire des clubs qui ont gagné la Ligue des Champions, avec une équipe extrêmement jeune, avec un style de jeu efficace. Je voudrais dire que Luis Enrique,
l'entraîneur,
a inventé un nouveau football qui n'existait pas, sans avant-centre, avec une équipe très compacte, des joueurs qui défendent, qui attaquent. C'est quelque chose de très prometteur. C'est d'abord une énorme satisfaction sur le coup et de très prometteur pour l'avenir. Le PSG fait son entrée avec une équipe qui peut en gagner d'autres.
Et ce matin, le Rassemblement National dénonce un fiasco sécuritaire lors des célébrations pour fêter la victoire du PSG. Un conducteur de scooter a été tué à Paris, un adolescent a été poignardé à Dax. Dans la Manche, un policier blessé par un pétard est plongé dans un coma artificiel. Près de 560 interpellations dans toute la France. Delphine Evenou, c'est le bilan provisoire du ministère de l'Intérieur.
Oui, vous le disiez, hein, Eric, dans le centre de Dax, c'est un jeune de 17 ans qui a succombé à ses blessures après avoir reçu plusieurs coups de couteau à l'occasion des célébrations du PSG, explique le parquet. Mais on ne sait pas s'il s'agissait de supporters. L'auteur est en fuite. À Paris, dans le 7e arrondissement, c'est un jeune homme de 23 ans qui a perdu la vie, percuté par une voiture alors qu'il circulait à scooter. Le conducteur a été testé négatif à l'alcool et aux stupéfiants, tout comme le jeune automobiliste qui, à Grenoble, a percuté une famille sur une artère très fréquentée du centre-ville hier soir. Au moins 3 blessés, dont un qui est entre la vie et la mort. À l'heure qu'il est, le ministère de l'Intérieur recense près de 200 manifestants blessés, ainsi qu'une vingtaine de policiers, gendarmes et pompiers. À Coutances, dans la Manche, par exemple, un policier a été placé dans le coma artificiel après un tir accidentel de mortier. Sur les quelques 560 interpellations, 320 personnes ont été placées en garde à vue, essentiellement à Paris, dont une cinquantaine de mineurs, pour des magasins pillés, des départs d'incendie, des jets de projectiles. Il y a un peu moins d'une heure, le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, tout en assurant ne pas vouloir minimiser, a estimé que le bilan était moins élevé que ce qu'on a pu connaître dans le passé. Et il a souligné une ambiance globalement festive dans la capitale.
Oui, ni une réussite, ni un échec, disait il y a quelques minutes effectivement le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, en commentant la sécurisation donc du sacre du PSG hier. Merci Delphine Evenou. Et parmi les hommages rendus dès hier soir, on retiendra celui très élégant de Kylian Mbappé qui a quitté le PSG pour tenter, sans succès pour l'instant, de décrocher lui aussi une Coupe d'Europe avec le Real Madrid. Mbappé qui salue la victoire et la belle attitude du club. Félicitations au PSG, écrit Kylian Mbappé sur ses réseaux sociaux. En revanche, je n'ai lu ce matin aucun hommage en provenance de l'Olympique de Marseille.
France Inter, le journal de 13h.
Éric Delvaux.
En Russie, les enquêteurs considèrent comme des actes de terrorisme l'effondrement de deux ponts proches de l'Ukraine la nuit dernière. Après des explosions, il y a plusieurs morts, des dizaines de blessés. Le Kremlin annonce que le président Poutine suit l'affaire de très près, Nathanaël Charbonnier.
Il y a des ressemblances troublantes dans les faits qui se sont déroulés la nuit dernière en Russie. Première explosion, elle a eu lieu dans la région de Bryansk vers 23h heure locale. Un pont routier s'effondre sur une voie ferrée à la suite d'une explosion. Les chemins de fer ont indiqué que le train numéro 86 qui reliait la ville de Klimov à Moscou a déraillé, entraînant la mort de passagers et de nombreux dégâts. La seconde explosion est intervenue plus tard dans la nuit, vers 3h du matin en Russie. Cette fois, c'est un pont ferroviaire qui a été touché, là encore même procédé. Une explosion qui entraîne la chute et l'embrasement d'une locomotive sur l'autoroute qui passe en dessous. On peut noter que ces deux explosions ont eu lieu dans des endroits bien particuliers, notamment dans des zones proches de l'Ukraine et surtout à des points stratégiques pour le passage des trains et l'approvisionnement en armes de l'armée russe sur le front. Ce qui explique que les enquêteurs traitent les deux affaires comme des actes de terrorisme.
Nathanaël Charbonnier, rédaction internationale de France Inter. 29 millions de Polonais sont aux urnes aujourd'hui, convoqués aux urnes pour le second tour de l'élection présidentielle. La campagne électorale a valorisé les thèmes sécuritaires avec une droitisation des discours. D'ailleurs, les candidats de la gauche polonaise sont éliminés de ce second tour. Les électeurs de gauche sont donc tentés par l'abstention, même si certains d'entre eux iront tout de même voter pour le candidat de la majorité qui leur apparaît comme le dernier rempart contre l'extrême droite polonaise. Ils voteront donc une pince à linge sur le nez. En Pologne, on dit plutôt d'aller qu'on va voter avec un seau à vomi à la main. Explication avec notre correspondant à Varsovie, Adrien Sarla.
Comme nombre de ses amis activistes et féministes, Emilia s'est longtemps demandé si elle irait voter au second tour. Mais le score serré qui s'annonce a eu raison de ses tergiversations.
Je ne porte pas Tchaïkovski dans mon cœur, mais il faut que je vote pour lui. Je n'ai pas d'autres options, c'est la seule chose à faire. Car si Narovski venait à gagner, ce serait un cauchemar.
Mais la jeune femme ne compte pas laisser son vote par dépit rester inaperçu et entend se rendre aux urnes avec un accessoire peu commun.
Je vais être obligée de voter pour Tchaïkovski, mais je le fais avec un profond dégoût. Alors je vais prendre un seau avec moi, car si l'envie de vomir me prend, il faut qu'il soit près de moi.
Un acte engagé qui fait écho à une initiative relayée dans les milieux libéraux, déçue des promesses non tenues par le gouvernement de Donald Tusk. Le président actuel, Andrzej Duda, l'empêche de réformer le pays à coup de veto présidentiel depuis un an et demi.
Si Narovski gagne, le gouvernement actuel aura toujours une excuse pour ne rien faire avancer et rien ne changera, car ils ne se donneront même pas la peine d'essayer.
L'entre-deux tours a été dominé par la figure du candidat réactionnaire Sławomir Mentzen, arrivé troisième au premier tour et dont les deux finalistes ont courtisé l'électorat, quitte à durcir le ton pour Tchaïkovski, s'éloignant ainsi de sa base électorale. Adrien Sarla, Varsovie, France Inter.
À peine Elon Musk a-t-il quitté l'équipe gouvernementale de Donald Trump que le président américain décide brutalement de retirer la candidature d'un des proches d'Elon Musk à la tête de la NASA, ce qui ajoute une dose d'incertitude sur l'avenir de l'agence spatiale et de ses 18 000 employés qui doivent faire face à d'importantes coupes budgétaires. En France, cette semaine a été rude pour les écologistes entre la reprise des travaux de la 69, le retour des pesticides néonicotinoïdes, le rétro-pédalage sur les ZFE, la loi contre la bétonisation qui a du plomb dans l'aile. Les écolos ont donc accumulé ces derniers jours une série de revers. Et 3 ans après la phrase du candidat Macron, affirmant à l'époque que son nouveau septennat serait écologiste ou ne serait pas, la ministre de la Transition écologiste, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche, Agnès Pannier-Runacher, disait il y a quelques minutes sur France Inter qu'elle ne vivait pas très bien ce recul sur les zones à faible émission.
Moi, je peux vous dire aujourd'hui que j'ai honte. J'ai honte de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Moi, je viens de la société civile et j'ai honte de faire ce métier de responsable politique. J'ai honte de ce qui s'est passé parce que à aucun moment, le sujet qui est au cœur de ce dispositif, qui est la question de la qualité de l'air, qui est la question de protéger les Français contre des décès précoces. Pourquoi les filles votent contre les zones à faible émission ? Parce qu'ils ont beaucoup de députés dans des zones à faible émission. Et ce qui se passe, c'est que LFI vote avec le RN et vote avec les Républicains sur un sujet où ils font de la démagogie, caressent dans le sens du poil les personnes en situation modeste à qui on est allé raconter que parce qu'ils avaient une vieille voiture, ils ne pourraient plus aller dans aucune grande agglomération. Le cynisme, le dispute au déni et je dirais à la lâcheté.
Agnès Pannier-Runacher avec Karine Bécard, il y a quelques minutes sur France Inter, question politique. On va terminer ce journal avant les bonnes ondes avec la joie des supporters du PSG hier soir, l'enthousiasme des commentateurs, on va pas s'en priver. 5-0 devant l'Inter Milan, c'était pour certains le plus beau jour de leur vie, jusqu'à s'en casser la voix.
Barcola pour Mayulu, Mayulu, oh le but, 5-0.
Mais c'est quoi ce match?
Mon mariage, j'ai pas pleuré, là j'ai envie de pleurer, c'est de la folie furieuse.
Et c'est fini, c'est terminé. Paris est champion d'Europe. Paris remporte la Ligue des Champions. 32 ans après l'Olympique de Marseille.
Oh, incroyable, on est les champions, c'est incroyable.
5 buts en finale. Ah non, c'est une manie en finale, c'est incroyable.
C'est le plus beau jour de ma vie. J'ai deux enfants, j'ai tout ce qu'on veut, c'est le plus beau jour de toute ma vie aujourd'hui. C'est exceptionnel.
Ouais, franchement, c'est incroyable. Oui, je réalise, mais je pense que je pleurerai dans 2-3 jours. Quand je vais revoir, ça va être incroyable. En 2008, on a failli descendre, et là, on est champion d'Europe.
Toutes les émotions, toutes ces années de galère, de combat, et là, aujourd'hui, c'est juste magnifique.
Incroyable!
Voilà, ils n'ont plus de voix ce matin. Et merci à Sébastien Sabiron, Nicolas Sabat pour la sélection et le montage de ces morceaux choisis. Voici les bonnes ondes donc de Sandrine Oudin. Second épisode, on va repartir guincher à Mandres-la-Côte. C'est en Haute-Marne. Sandrine a testé la guinguette mobile. Guinguette itinérante pour ambiancer les bourgs les plus reculés. Guinguette lancée par l'association 1000 Cafés qui lutte contre la disparition des lieux de convivialité en zone rurale. Cette guinguette insuffle donc du lien social souvent disparu.
Le petit camion, les guirlandes de couleurs, les tréteaux, les haut-parleurs, rien à bouger, on peut y aller.
J'ai jamais vu des gaufres comme ça, c'est la première fois. Bah si, hein.
Vous êtes de Mandres, madame?
De Mandres-la-Côte, oui, hein.
Depuis longtemps?
Bon, j'ai toujours été de Mandres. Je suis née à Mandres et j'ai jamais quitté Mandres.
Je peux vous demander votre âge?
76 ans.
76 ans?
Oui, un 7 puis un 6. Mais tu me fais chier, quoi!
Qu'est-ce qu'elle veut?
Que je lui mette la saucisse au bout, là-bas.
Est-ce que vous êtes heureuse ici?
Comment?
Est-ce que vous êtes heureuse?
Oh, très heureuse, oui. Oh, bah, c'est la première fois que je vois ça, hein.
Ce n'est pas la seule et c'est pour ça que tout le monde débarque.
Bonjour monsieur, vous êtes de Mandres?
Non, je suis d'Andlau.
Alors, qu'est-ce qu'il vous faudra?
Une blonde.
Gérard a fait 40 km sur les toutes petites routes pour tester la guinguette.
Parce que j'ai divorcé, j'habite à Andlau tout seul comme un con.
Comme un con.
Donc il faut que je voie du monde. Ah oui, ça fait du bien de revoir un peu de monde comme ça, de discuter.
Quand vous dites ça, vous avez l'air dégoûté.
Ah oui, ah ben, carrément oui, parce que il n'y a plus de bistrot, il n'y a plus rien du tout, c'est vrai. Puis aucune socialisation. Il n'y a que le téléphone maintenant. Vous voyez quelqu'un avec un téléphone, là? Ça, ça fait du bien.
Oui, mais c'est éphémère, ça repart après.
C'est éphémère, mais ça fait du bien. Regardez, moi, je discute avec vous.
Et on ne se connaissait pas?
Pas du tout. Oh, mais on peut faire un peu plus quand même.
Bien sûr. Voilà le concert du groupe de rock de la commune. À chaque étape, la guinguette mobile embarque tout le monde dans son camion, clos et brillant.
En fait, l'objectif, c'est vraiment que ce temps-là soit un temps de rendez-vous pour le village. Et pour ça, on a besoin de Ginette et Jacqueline qui vont venir donner un coup de main pour l'installation, du restaurateur du coin qui va venir proposer la petite restauration, de l'artiste local qui va venir proposer un concert, des producteurs du coin qui vont faire leur petit marché. C'est pas un simple bistrot, on va beaucoup plus loin que ça.
En 2 ans, la guinguette mobile a doublé son nombre de dates. Le président de l'agglomération, Stéphane Martinelli, applaudit.
Mais oui, moi-même, j'ai rencontré mon professeur d'histoire que j'avais dans les années 80 et qui habite ici, à Mandres. Donc, c'est chouette. Moi, ce qui me bluffe, c'est qu'on est toutes les générations. Il y a des petits mômes qui courent et puis il y a des gens qui ont 70, qui ont 80, mais aussi en termes sociologiques. Ce soir, il y a des chefs d'entreprise. Ce soir, il y a des ouvriers. Ce soir, il y a des employés. Et ça, c'est top. Ça n'a pas de prix.
La guinguette mobile dans les bonnes ondes de Sandrine Oudin. Avant le point météo, retenez que 10 départements du centre-est seront en vigilance aux orages à partir de 16h. Des orages qui pourront être localement violents. Le temps.
La météo avec TGV Inouï. Trouvez votre coin de ciel bleu dans une de nos 200 destinations en France et vers l'Europe.
Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
De violents orages sont donc attendus sur le sud du pays?
Oui, et ils éclateront la mi-journée. Ils seront particulièrement forts entre le Massif central, la Franche-Comté, le nord de la région Rhône-Alpes, avec de la grêle, de fortes pluies, de violentes rafales de vent. On surveillera particulièrement les départements de l'Allier et du Jura. On aura également des orages sur les Pyrénées qui vont gagner l'Occitanie dans la soirée, avec là aussi des averses de grêle possibles. Pour le sud-ouest et le nord-est, le ciel va rester nuageux à pluvieux. Puis on aura un petit peu plus de lumière sur la moitié nord, même si le ciel va rester assez couvert. Ciel qui va se voiler également près de la Méditerranée.
Et les températures baissent.
Oui, la moyenne cet après-midi ira de 18 à 26 degrés sur la moitié nord, avec une exception quand même en Alsace, où on atteindra encore les 30 degrés à Strasbourg ou à Mulhouse. Et 21 à 33 degrés, ça c'est la moyenne pour la moitié sud.
Les prévisions de Céline Dacosta.